des livres plein les oreilles. Cette semaine à l'émission, Nara, dont je vous parle souvent, mais peut-être pas assez d'ailleurs, Nara donc vous offre ici au Québec un florilège de tout ce qui s'écoute dans le domaine du livre audio, produit ici ou ailleurs dans la francophonie. Et ils ont pris l'habitude de nous proposer leur chouchou, leur livre audio chouchou. En voici un, qui s'appelle « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère. À l'heure où vous m'écoutez, alors Emmanuel Carrère, bien évidemment, on en aura un extrait. Hein. Je ne vous parle jamais d'un livre sans en écouter un, voire plusieurs extraits. À l'heure où vous m'écoutez, Isabelle Autissier, navigatrice, aventurière et écrivaine, est-elle entrée à l'Académie française dans la chaise laissée vacante de Valéry Giscard d'Estaing? Eh bien, c'est possible. En attendant, on va se souvenir que Madame Autissier écrit, et même très bien, avec un extrait prévu d'Oublier Clara. La petite bijou de Patrick Modiano sera le livre audio qui m'avait échappé et L'Orange mécanique, le classique adapté en livre audio. Monsieur Cousineau sera des nôtres en seconde partie que nous finirons avec des nouveautés fraîchement lues et disponibles pour vos oreilles. Alors, d'autres vies que la mienne, un premier court extrait.
Chaque jour, depuis 6 mois, volontairement, j'ai passé quelques heures devant l'ordinateur à écrire sur ce qui me fait le plus peur au monde. La mort d'un enfant pour ses parents, celle d'une jeune femme pour ses enfants et son mari. La vie m'a fait témoin de ces deux malheurs coup sur coup et chargée, c'est du moins ainsi que je l'ai compris, d'en rendre compte. Elle me les a épargnés, je prie pour qu'elle continue. J'ai quelquefois entendu dire que le bonheur s'apprécie rétrospectivement. On pense, je ne m'en rendais pas compte, mais alors, j'étais heureux. Cela ne vaut pas pour moi. J'ai longtemps été malheureux et très conscient de l'être. J'aime aujourd'hui ce qui est mon lot. Je n'y ai pas grand mérite tant il est aimable. Et ma philosophie tient tout entière dans le mot qu'aurait le soir du sacre murmuré Madame Laetitia, la mère de Napoléon. « Pour vous que ça dure ».
Alors, à la base de ce livre-là, signé Emmanuel Carrère, il y a plusieurs événements. Deux événements parmi ceux sûrement qui lui font le plus peur au monde, soit la mort d'un enfant pour ses parents, auxquels il va, entre guillemets, assister, et celle d'une jeune femme pour ses enfants et son mari. Alors, il y a quelqu'un autour de lui qui lui a dit « Mais toi, t'es écrivain, pourquoi tu n'écrirais pas ?» cette histoire, notre histoire, d'où peut-être ce titre « D'autres vies que la mienne ». Il dit, l'auteur, c'était une commande, je l'ai acceptée, c'est ainsi que je me suis retrouvée à raconter l'amitié entre un homme et une femme, tous deux rescapés d'un cancer, tous deux boiteux et tous deux juges, qui s'occupaient d'affaires de surendettement au tribunal d'instance de Vienne en Isère. Il est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d'extrême pauvreté, de justice et surtout d'amour, tout y est vrai. Plus concrètement, alors qu'il se trouve en vacances au Sri Lanka, un certain 24 décembre 2004, Emmanuel Carrère, sa compagne Hélène et les enfants échappent de peu au plus grand tsunami de l'histoire. Ils reviennent à Paris profondément affectés par le décès notamment de la petite fille d'Ami rencontrée là-bas. En plus, Hélène apprend quelques semaines plus tard qu'une de ses sœurs, Juliette, est atteinte d'un cancer du sein. Les métastases trouvées au niveau des poumons laissent craindre le pire. La quasi-simultanéité de ces deux événements, c'est le point de départ de ce livre « D'autres vies que la mienne », un livre témoignage d'Emmanuel Carrère, particulièrement poignant sur la précarité de la vie et sur la dignité humaine. On va les retrouver, ils sont au Sri Lanka, juste avant la grande vague.
La nuit d'avant la vague, je me rappelle qu'Hélène et moi avons parlé de nous séparer. Ce n'était pas compliqué, nous n'habitions pas sous le même toit, n'avions pas d'enfants ensemble, nous pouvions même envisager de rester amis. Pourtant, c'était triste. Nous gardions en mémoire une autre nuit, juste après notre rencontre, passée tout entière à nous répéter que nous nous étions trouvés, que nous allions vivre le reste de notre vie ensemble, vieillir ensemble, et même que nous aurions une petite fille. Plus tard, nous avons eu une petite fille. À l'heure où j'écris, nous espérons toujours vieillir ensemble et nous aimons penser que nous avions dès le début tout compris. Mais il s'était écoulé depuis ce début une année compliquée, chaotique. Et ce qui nous paraissait certain à l'automne 2003, dans l'émerveillement du coup de foudre amoureux, ce qui nous paraît certain, en tout cas désirable, 5 ans plus tard, ne nous paraissait plus certain du tout, ni désirable, cette nuit de Noël 2004, dans notre bungalow de l'hôtel Evalanca. Nous étions certains, au contraire, que ces vacances étaient les dernières que nous passions ensemble, et que malgré notre bonne volonté, elles étaient une erreur. Allongés l'un contre l'autre, nous n'osions pas parler de la première fois, de cette promesse à laquelle nous avions tous les deux cru avec tant de ferveur et qui, de toute évidence, ne serait pas tenue. Il n'y avait pas entre nous d'hostilité, nous nous regardions seulement nous éloigner l'un et l'autre, avec regret. C'était dommage. Je ressassais mon impuissance à aimer, d'autant plus criante qu'Hélène est vraiment quelqu'un d'aimable. Je pensais que j'allais vieillir seule. Hélène, elle, pensait à autre chose, à sa sœur Juliette, qui, juste avant notre départ, avait été hospitalisée pour une embolie pulmonaire. Elle avait peur qu'elle tombe gravement malade, peur qu'elle meure. J'objectais que cette peur n'était pas rationnelle, mais elle a bientôt pris toute la place dans l'esprit d'Hélène et je lui en ai voulu de se laisser absorber par quelque chose à quoi je n'avais aucune part. Elle est allée fumer une cigarette sur la terrasse du bungalow. Je l'ai attendue, couchée sur le lit en me disant « Si elle revient bientôt, si nous faisons l'amour, peut-être que nous ne nous séparerons pas, peut-être que nous vieillirons ensemble. » Mais elle n'est pas revenue. Elle est restée seule sur la terrasse à regarder le ciel s'éclaircir peu à peu, à écouter les premiers chants d'oiseaux, et je me suis endormi de mon côté, seul et triste, persuadé que ma vie allait tourner de plus en plus mal. L'image suivante, c'est un petit groupe, clients et personnel de l'hôtel, massés sur une terrasse au bout du parc, dominant l'océan. Au premier regard, étrangement, on ne remarque rien. Tout paraît normal. Puis c'est comme si on faisait le point. On s'avise que l'eau est très loin. Entre la bordure des vagues et le pied de la falaise, la plage en temps normal est large d'une 20aine de mètres. Là, elle s'étend à perte de vue, grise, plate, scintillante sous le soleil voilé. On se croirait au Mont Saint-Michel à marée basse. On s'aperçoit aussi qu'elle est jonchée d'objets dont on ne mesure d'abord pas l'échelle. Ce bout de bois tordu, est-ce une branche arrachée ou un arbre? Un très grand arbre? Cette barque démantelée, est-ce que ce ne serait pas plus qu'une barque? Carrément un bateau, un chalutier rejeté et brisé comme une coquille de noix? On n'entend aucun bruit. Pas un souffle n'agite les plumets des cocotiers.
C'est lu par Eric Caravaca. Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose que moi, mais au début, je trouvais ça un peu plate. Puis finalement, j'ai été complètement envoûtée par cette lecture-là, par cette façon encore, comme je le dis souvent à mes étudiants, d'habiter les mots. Et les mots étaient ceux d'Emmanuel Carrère. D'autres vies que la mienne. C'est déjà sorti il y a quelques années, mais c'était le livre chouchou cette semaine du catalogue Nara. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler, surtout que le thème est vraiment fort intéressant et tellement bien écrit. Parlons de belle écriture. Sur l'île, l'hiver prenait une autre dimension. L'isolement devenait une solitude. C'est signé Isabelle Autissier. Au moment où je vous parle, et au moment où vous écoutez cette émission, on ne sait pas encore, mais peut-être le sait-on, remarquez quand vous nous écoutez, que Isabelle Autissier aurait pris, qui elle-même est navigatrice et autrice, aurait pris la place de la chaise vacante laissée par Valérie Giscard d'Estaing, aujourd'hui disparue, où ça? Eh bien, à l'Académie française. Isabelle Autissier est née en octobre 1956 à Paris. Elle aurait pu devenir ingénieure agronome, mais voilà, elle était passionnée par la navigation. En 1991, elle est devenue la première femme à réaliser un tour du monde en course, à la voile, en solitaire. En 1994, elle a associé son nom à un nouvel exploit, faire le trajet par la mer de New York à San Francisco en franchissant le Cap Horn, en 62 jours, 5 heures et 55 minutes, soit 14 jours de moins que le meilleur temps précédent. Et puis ensuite, elle s'est tournée vers l'écriture. Elle a ainsi écrit plusieurs récits, des essais, même un livret d'opéra. En 2009, elle a publié son premier roman, qui s'appelait « Seule la mer s'en souviendra ». Et puis, elle a écrit « Soudain seul », qui est un livre qui a d'ailleurs été adapté au cinéma en 2023 avec Gilles Lellouche et Mélanie Thierry. Et elle a écrit « Oublier Clara », qui a reçu le prix Fémina du roman en 2019, qui nous amène à Mourmansk, au nord du cercle polaire. Sur un lit d'hôpital, il y a Roubine qui se sait condamné. Il y a une seule énigme qui le maintient en vie alors qu'il n'était qu'un enfant. Clara, sa mère, chercheuse scientifique à l'époque de Staline, a été arrêtée sous ses yeux. Qu'est-elle devenue, cette femme? L'absence de Clara, la blessure ressentie enfant, ont fait de lui un homme rude, un homme amer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va développer un rapport extrêmement difficile avec son fils Youri. Youri qui a décidé de fuir la Russie et de vivre à Paris. Mais un jour, on lui apprend que son père est gravement malade, son père meurtri, et finalement, il décide de retourner là-bas, à Mourmansk, et peut-être, pourquoi pas, lui-même percer l'histoire de la disparition de Clara. Un extrait.
Ils quittèrent la forêt, la neige devint noire, la poussière de charbon. Youri avait oublié que Mourmansk baignait dans son nuage de polluants, dont celui-ci n'était que le plus visible. Le chauffeur le déposa à l'hôtel Goubernski, non sans lui avoir laissé son portable, pour une autre fois, ou s'il cherchait un endroit pour s'amuser un peu. Un passeport américain, même avec un patronyme dénonçant l'origine russe, faisait encore son petit effet à Mourmansk. On s'empressa de lui ouvrir une chambre fleurant le désinfectant, mais confortable. Lit XXL, écran géant. Il était temps de sortir de la léthargie du voyage. Parmi les centaines de mails qui encombraient tous les jours sa boîte de l'université, celui rédigé en russe avait attiré son attention. D'ordinaire, c'est l'anglais qui est utilisé pour les échanges scientifiques. « Monsieur, j'espère ne pas me tromper d'adresse mail. » « Vous ne me connaissez pas, je suis Anatoli Grigorievitch Soutine. J'habite dans le même immeuble que votre père, à Mourmansk. C'est sa voisine d'en face que vous connaissez bien, Irina Ivanovna, qui m'a chargé de vous retrouver. Sachant seulement que vous viviez aux États-Unis et étiez vraisemblablement ornithologue, j'avoue que j'ai eu quelques peines à vous localiser. Ce sont vos publications scientifiques qui m'ont mis sur la piste. Irina vous fait savoir que votre père est hospitalisé pour un cancer du foie. » Visiblement en phase terminale. Elle ajoute qu'il mentionne souvent votre nom et semble impatient de vous revoir. Si vous le souhaitez, je peux lui faire passer un message en retour. Elle est devenue plutôt sourde et entend mal au téléphone. Meilleure salutation. Youri était resté longtemps immobile devant l'écran. Il était tard et le laboratoire silencieux. Il ferma les yeux et revit comme hier la carrure de boxeur, les yeux bleu-gris et la grande bouche au sourire goguenard avec la lippe jaunie de nicotine. Son père. Pourquoi, après ce qui s'était passé, pouvait-il être impatient de le revoir? Le remords n'avait jamais été un mot de son vocabulaire. L'approche de la mort transforme-t-elle un homme à ce point? Il s'aperçut qu'il agitait nerveusement la jambe, un tic qu'il ne connaissait plus depuis son arrivée aux États-Unis. Il lui rappelait cette impuissance qui l'assaillait quand il devait supporter les colères paternelles. S'opposer ne servait qu'à allonger le sermon et pousser son père dans des octaves supplémentaires de rage froide. Il éteignit l'ordinateur. Son esprit vagabondait déjà à des milliers de kilomètres. Quand il sortit, le campus enténébré sentait l'automne. Un vent soutenu chuintait dans les arbres et il lui fallut 20 bonnes minutes pour rentrer chez lui à vélo. Dans l'espoir de maîtriser l'émotion qui le gagnait, il essaya de se concentrer sur la route mal éclairée, où il dérapait sur les amas de feuilles mortes. Il essayait de ne pas penser à ce message, mais savait déjà qu'à l'arrivée, il allait pianoter sur son clavier pour chercher un billet d'avion. Que craignait-il aujourd'hui d'un homme malade? À 46 ans, il avait passé exactement autant de temps en URSS qu'aux États-Unis, mais sa vraie patrie était ici, en Amérique. pas seulement grâce au changement de passeport, mais surtout à cause de cette université, de ses recherches qui le passionnaient, de Stéphane, qu'il pouvait aimer sans honte, alors qu'il entendait des horreurs sur la traque des couples homosexuels en Russie. Bref, de toute cette existence qu'il s'était construite librement. Rien ne lui ferait déserter ce pays qui avait accueilli un thésar impécunieux et lui avait ouvert une voie royale. À chaque esclandre avec son père, quand il tentait de décrire la vie qu'il rêvait de mener, il s'entendait répliquer qu'il n'était qu'un imbécile qui n'arriverait à rien. Aujourd'hui, il était arrivé.
Oubliez Clara, d'Isabelle Autissier, lu par Tariq Mehani. Le livre audio qui m'avait échappé maintenant, il est signé Patrick Modiano. Régalez-vous en audio de ce livre qui s'appelle La Petite Bijou, sorti il y a déjà quelques années, lu notamment par Valérie Carcinti. Nous sommes avec Thérèse, une jeune femme de 19 ans qui, en arpentant les couloirs du métro parisien, tombe par hasard sur une femme au manteau jadis jaune qui ressemble de façon troublante à sa mère. Or, sa mère est censée être morte des années plus tôt au Maroc. Elle va suivre cette femme pendant des jours, cherchant à l'approcher, mais ne franchissant jamais le pas. Mais d'ailleurs, est-ce sa mère ? Extrait de « La petite bijou » de Patrick Modiano et la voix de Valérie Carcinti.
Une douzaine d'années avaient passé depuis que l'on ne m'appelait plus la petite bijou. Et je me trouvais à la station de métro Châtelet à l'heure de pointe. J'étais dans la foule qui suivait le couloir sans fin sur le tapis roulant. Une femme portait un manteau jaune. La couleur du manteau avait attiré mon attention et je la voyais de dos sur le tapis roulant. Puis elle marchait le long du couloir où il était indiqué direction Château de Vincennes. Nous étions maintenant immobiles, serrés les uns contre les autres au milieu de l'escalier, en attendant que le portillon s'ouvre. Elle se tenait à côté de moi. Alors j'ai vu son visage. La ressemblance de ce visage avec celui de ma mère était si frappante que j'ai pensé que c'était elle. Une photo m'était revenue en mémoire, l'une des quelques photos que j'ai gardées de ma mère. Son visage est éclairé, comme si un projecteur l'avait fait surgir de la nuit. J'ai toujours éprouvé une gêne devant cette photo. Dans mes rêves, chaque fois, c'était une photo anthropométrique que quelqu'un me tendait. Un commissaire de police, un employé de la morgue, pour que je puisse identifier cette personne. Mais je restais muette. Je ne savais rien d'elle. Elle s'est assise sur l'un des bancs de la station, à l'écart des autres, qui se serraient au bord du quai en attendant la rame. Il n'y avait pas de place libre sur le banc à côté d'elle. Et je me tenais debout, en retrait, appuyée contre un distributeur automatique. La coupe de son manteau avait été sans doute élégante autrefois, et sa couleur vive lui donnait une note de fantaisie. Mais le jaune s'était terni et il était devenu presque gris. Elle paraissait ignorer tout ce qui l'entourait. Et je me suis demandé si elle resterait là, sur le banc, jusqu'à l'heure du dernier métro. Le même profil que celui de ma mère. Le nez si particulier, légèrement relevé du bout. Les mêmes yeux clairs. Le même front haut. Les cheveux étaient plus courts. Non, elle n'avait pas beaucoup changé. Les cheveux n'étaient plus aussi blonds, mais après tout, j'ignorais si ma mère avait été vraiment blonde. La bouche se contractait dans un pli d'amertume. J'avais la certitude que c'était elle. Elle a laissé passer une rame. Le quai était vide pendant quelques minutes, je me suis assise sur le banc à côté d'elle. Puis de nouveau, le quai était envahi d'une foule compacte. J'aurais pu engager la conversation. Je ne trouvais pas les mots. Et il y avait trop de monde autour de nous. Elle allait s'endormir sur le banc. Mais quand le bruit de la rame n'était encore qu'un tremblement lointain, elle s'est levée. Je suis montée dans le wagon derrière elle. Nous étions séparés par un groupe d'hommes qui parlaient très fort entre eux. Les portières se sont refermées. Et c'est alors que j'ai pensé que j'aurais dû prendre, comme d'habitude, le métro dans l'autre direction. À la station suivante, j'ai été poussée sur le quai par le flot de ceux qui sortaient. Puis je suis remontée dans le wagon et je me suis rapprochée d'elle. Dans la lumière crue, elle paraissait plus vieille que sur le quai. Une cicatrice lui barrait la tempe gauche et une partie de la joue. Quel âge pouvait-elle avoir? 50 ans? Et quel âge sur les photos? 25 ans? Le regard était le même qu'à 25 ans. Clair, exprimant l'étonnement ou une crainte vague. Et il se durcissait brusquement. Par hasard, il s'est posé sur moi, mais elle ne me voyait pas. Elle a sorti de la poche de son manteau un poudrier qu'elle a ouvert. Elle a rapproché le miroir de son visage et elle passait le petit doigt de sa main gauche au coin de la paupière, comme pour chasser une poussière de son œil. Le métro prenait de la vitesse, il y a eu un chaos. Je me suis retenue à la barre métallique, mais elle n'a pas perdu l'équilibre. Elle restait impassible, à se regarder dans le poudrier. À Bastille, ils sont parvenus tant bien que mal à monter tous, et les portières se sont refermées avec difficulté. Elle avait eu le temps de ranger son poudrier avant que les autres affluent dans le wagon. À quelle station allait-elle descendre ?
La petite bijou de Patrick Modiano, lue notamment par cette voix que nous venons d'entendre, Valérie Carcenti, mais à côté de laquelle se retrouve une ribambelle d'autres comédiennes et comédiens. L'orange mécanique, pourquoi en parler? Parce que ce sera le classique du jour. Oui, c'est vrai, c'est un classique un petit peu moins ancien peut-être que d'autres que je vous ai présentés. Pourquoi? Parce que à l'occasion du centenaire de la naissance d'Anthony Burgess, c'est lui qui a écrit ce roman culte, L'orange mécanique, et bien en plus, on peut lire et on peut entendre une postface inédite de l'auteur sur le film qu'en a tiré bien sûr Stanley Kubrick, si vous vous en souvenez bien. Alors, il dit ceci dans sa postface, notamment, Monsieur Burgess, il dit « L'orange mécanique, ce serait le livre du désespoir de notre temps s'il n'éclatait d'humour à chaque page au point d'en être profondément salubre. Et puis, il y a ce langage révolutionnaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et si le contagieux qu'on ne serait pas étonné d'en entendre bientôt, il est si contagieux, voilà, qu'on ne serait pas étonné d'en entendre bientôt les échos dans la rue. Ce langage-là, il fait référence au Natsat, qui était le nom de l'argot anglo-russe qui avait été inventé par l'écrivain britannique pour son roman L'orange mécanique. Comment on traduit ça? Eh bien, écoutez.
Alors ce sera quoi? Hein? Il y avait moi, autrement dit Alex, et mes trois drougues, autrement dit Pierrot, Joe et Momo. Vraiment Momo, le Momo. Et on était assis au Korova Milk Bar à se creuser le rassoudot pour savoir ce qu'on ferait de la soirée. Une putain de soirée d'hiver, branque, noire et glaciale, mais sans eau. Le Korova Milk Bar, c'était un de ces mestos où on servait du lait gonflé. Et peut-être avez-vous oublié, oh mes frères, à quoi ressemblait ce genre de mesto? Tellement les choses changent zoom par les temps qui courent et tellement on a vite fait d'oublier, vu aussi qu'on ne lit plus guère les journaux. Bref, ce qu'on y vendait, c'était du lait gonflé à autre chose. Le Korova n'avait pas de licence pour la vente de l'alcool, mais il n'existait pas encore de loi interdisant d'injecter de ces nouvelles vêches qu'on mettait à l'époque dans le moloko des familles. Ce qui faisait qu'on pouvait le drinker avec de la Vélocette, du Saint-Émesque ou du Metcat, ou une ou deux autres vêches, et s'offrir 15 gentilles minutes pépère tsarible à mirer Gogre et tous ses anges et ses saints dans son soulier gauche, le mosgue plein à péter de lumière. Ou alors, drinker du lait au couteau, comme on appelait ça, façon de s'affûter et de se mettre en forme pour une petite partie salingue de 20 contre 1. Et c'était justement ce qu'on drinkait le soir par où je commence cette histoire. On avait les poches pleines de mouiska, si bien qu'on n'avait vraiment pas besoin, histoire de craster encore un peu de Jolly Lollipop,
de tolchoquer un vieux vec au fond d'une impasse et de le relucher baigné dans son sang tout en comptant la recette et la divisant par quatre, ni de faire des ultra-violents à une vioxcha ptitsa, toute grisaille et tremblante dans sa boutique pour vider le tiroir caisse jusqu'aux tripes et filer en se bidonscant. Mais, comme on dit, l'argent n'est pas tout. Tous les quatre, on était sapés à la super plus énième mode, c'est-à-dire à l'époque, collant noir super collant avec le moule à geler des familles, comme on disait, plaqué sur la fourche pour la protection, et aussi pour le style, vu qu'on reluchait assez clair le motif sous le collant à la bonne lumière. Autrement dit, le mien était en forme d'araignée, et Pierrot, lui, c'était une rouque, une main, autrement dit. Joe, une fleur, tout ce qu'il y avait de fantaisie, tandis que ce pauvre vieux Momo en avait un qui était genre litso de clown, autrement dit face de clown, canaille et bandant. Momo n'ayant pas grande idée des choses ni de l'être et étant le plus Momo de nous quatre, ce qui aurait crevé les yeux même à Saint-Thomas. Et par-dessus, on portait des vestes cintrées sans revers, mais avec de ces épaules maxi rembourrées, des plechos, on les appelait, façon de singer pour rire qu'on les avait comme ça. Ensuite, mes frères, on avait de ces foulards blancs cassés qu'on aurait dit de la purée de cartoffel ou de patates fouettées en crème où on aurait fait un dessin à la fourchette. On portait les cheveux pas trop longs et on avait des bottes branques terribles pour shooter. Bon alors, ce sera quoi, hein? Il y avait trois des vodkas assises au bar, en tout et pour tout, et nous autres, malchiques, on était quatre, genre un pour tous et tous pour un, le plus souvent. Elles étaient aussi sapées à la super plus énième mode, ces girondes, avec des perruques, l'une pourpre, l'autre verte et l'autre orange, sur le gulliver, qui avait bien dû leur coûter 3 ou 4 semaines de salaire chaque, minimum, je dirais, sans compter le maquillage assorti, arc-en-ciel autour des glaces, c'est-à-dire, et rotes peintes très grandes. Et puis, elles avaient de longues robes noires très droites, et à l'endroit des gros de nez, elles portaient des petits macarons en simili argent avec des noms de malchiques, Jojo, Michou et autres, qui étaient censément ceux des différents malchiques avec qui elles avaient spaté avant leurs 14 ans. Elles ne cessaient pas de regarder de notre côté, et j'avais presque envie de dire, du coin de la rote, naturellement, qu'on allait s'offrir un coup de pole à trois en laissant ce pauvre vieux Momo à la traîne, vu qu'il aurait suffi de lui coupeter 1 demi-litre de Moloko, seulement cette fois avec une motte de Saint-Émesque dedans. Mais ça n'aurait vraiment pas été le jeu. Momo était très très laid et ressemblait à son nom, mais c'était un battant vicieux de Tsarible, très adroit de la botte. Bon alors, ce sera quoi, hein?
Le Natsat d'Anthony Burgess, dans son roman L'Orange Mécanique, traduit je ne sais plus par qui, mais bravo. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission de Clotilde Say qui s'appelle Des livres pleins les oreilles et que je vous retrouve dans quelques instants si vous nous écoutez à la radio. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Alors aujourd'hui, cette semaine devrais-je dire, Gérald nous fait une nouvelle fois la joie de sa Gérald Cousineau, bien sûr. Oh, je l'aime tellement et on l'a tellement à l'émission que je finis par omettre son nom pourtant si beau de Cousineau qu'il ne m'en veuille pas. Alors Gérald Cousineau nous fait une nouvelle fois la joie de sa toujours brillante participation, lui dont la cécité l'oblige à se plonger dans le monde du livre audio un nombre d'heures incalculable par semaine. Aujourd'hui, il nous présente « L'été où tout a fondu » de Tiffany McDaniel. Pour finir, des nouveautés dont le toujours très attendu Joël Dicker et un extrait du chef-d'œuvre qui a fait connaître Sylvia Plath juste un mois avant qu'elle ne décède, qu'elle ne se suicide, devrais-je dire, « La cloche de détresse ». Mais d'abord, Gérald Cousineau. Bonjour Gérald.
Bonjour Madame Say.
Alors nous allons bien, vous ne m'en voulez pas de vous avoir vraiment de façon, comme on dit, très, très cavalière, très grossière, nommé Gérald sans, enfin bref, en ayant fait...
Me voyons.
Que j'en perds mes mots, voilà.
Ça vous arrive donc ?
Oui, ça m'arrive, mais au combien ? Je ne suis pas née de l'intelligence artificielle, moi, monsieur. Et donc, je me donne le droit de faire des erreurs. Et... Alors, l'été où tout a fondu, parlez-nous de cela.
De la jeune écrivaine américaine Tiffany McDaniel, je dis jeune parce qu'elle est née en 85, donc elle n'a pas 40 ans. Et ce roman, c'est une brique, hein, près de 500 pages, elle a écrit alors qu'elle avait 31 ans, c'est son premier roman, 31 ans. Ouh. Et quand on lit le roman, on dit, c'est pas possible, quelle maturité, l'été tout a fondu, premier roman, moi je l'ai découverte avec Betty. Le roman, c'est le roman qui l'a vraiment fait connaître, qui lui a mérité des prix, mais elle avait auparavant écrit l'été où tout a fondu. Mais Betty, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, cette dame est née en Ohio, et c'est en Ohio que l'action de ce roman se déroule. Nous sommes dans une petite ville fictive d'Ohio. Oui. Alors là, nous avons une famille. Le père est un procureur, il s'appelle, tenez-vous bien, Autopsie. Autopsie, il faut le faire. Et la mère de ce monsieur va dire qu'elle voulait qu'il s'appelle Autopsie. Pourquoi? Parce que selon elle, en grec ancien, autopsia veut dire voir par soi-même. L'expression va revenir souvent dans le livre parce que ce monsieur veut toujours voir par lui-même. Bon. Alors donc, le père, c'est Autopsie Bliss. Il a deux garçons, Fielding et Grant. Une femme, un chien, enfin Granny, donc. Bon. Voilà la petite famille. Or, ce procureur, un jour, décide de faire passer une annonce à la première page du journal local où il invite le diable à lui rendre visite. Okay. C'est curieux quand même.
Oui.
Alors, en juin 1984, son fils, Fielding, qui revient de l'épicerie, rencontre devant le tribunal un jeune garçon noir tout efflanqué. Et le petit garçon noir lui demande s'il a de la crème glacée. Et on va apprendre que ce petit garçon-là, eh ben, il a répondu à l'annonce du journal, à l'annonce du procureur, et qu'il est le diable.
Bon.
Il a 13 ans, comme Fielding. Alors Fielding, bien sûr, va placoter un peu avec le petit garçon noir, qui a, en passant, d'étranges yeux verts. Et ça revient dans le livre, ça aussi. Donc, il va l'amener chez lui. Puis finalement, le procureur va héberger le jeune garçon, le temps d'un été. Mmh. Alors, bien sûr, le jeune garçon va découvrir donc la mère, les deux garçons, la chienne, etc. Mais, curieusement, il fait atrocement chaud dans cette petite ville, et on dirait, les méchantes langues disent que c'est curieux, comme la chaleur, la canicule semble être arrivée au moment même où le jeune garçon arrivait dans la petite ville. Et je précise tout de suite que la petite ville est blanche.
Oui,
alors, il y a un petit noir, c'est Sal. Il s'appelait Sal, S-A-L. Donc, la chaleur serait arrivée avec lui, mais bien sûr, le lecteur peut en douter. Là, il va se passer quelques tragédies, quelques morts tragiques, et qui est-ce qu'on soupçonne, bien sûr, d'y être impliqué? Le jeune noir, Sal.
Mais oui.
Permettez que je boive un peu.
Mais je vous en prie, mon ami. Mais comme je vous envie, j'ai moi-même oublié de prendre une.
Donc, Sal va passer l'été là, et les méchantes langues vont commencer à comploter contre lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Même les vaches vont mourir tellement il fait chaud, parce que c'est bon, un petit coin perdu dans la campagne. Donc, mine de rien, et on se dirige lentement, mais sûrement, vers la tragédie finale. Mais je veux vous amener à l'extrait que vous avez, parce qu'on y parle de satanisme, et ça, c'est important. Alors, je me tais tout de suite pour qu'on parle, justement, de satanisme.
Oui, et merci de nous avoir expliqué l'histoire de l'enfant, parce qu'on comprend mieux le choix des voix du narrateur.
Oui.
Parce que moi, je comprenais mal, là, je me dis, oula, oula. OK, alors maintenant, tout d'un coup, tout s'éclaire, si j'ose dire.
Oui.
Extrait de « L'été où tout a fondu », dont nous parle Gérald Cousineau.
Dans leur ensemble, les années 1980 devaient s'avérer particulièrement actives pour le diable. À cette époque-là, ses cornes n'étaient jamais bien loin. Le satanisme était à son apogée et ses sectes hystériques affichaient leur arrogance. Au cours de cette décennie, la peur avait pris la forme d'un quadrilatère afin de mieux s'emboîter dans nos maisons, dans nos petites vies bien rangées, bien carrées. Si une brique de lait se renversait, c'était la faute du diable. Si un gosse présentait des bleus, on lui faisait immédiatement suivre une thérapie pour lui faire avouer qu'il avait été maltraité par ses parents, vêtus de longues robes noires autour d'un feu de camp. Il n'est que de se souvenir de l'enquête sur la garderie McMartin qui a débuté en 1984 et qui a donné lieu aux allégations les plus folles à propos d'enfants que l'on aurait fait disparaître dans la cuvette des toilettes, tandis que d'autres auraient été violentés par Chuck Norris. Si ces allégations ont fini par être elles-mêmes évacuées d'un coup de chasse d'eau, cette période de panique devait à jamais s'inscrire dans les mémoires, comme celle où même les étoiles les plus brillantes semblaient incapables de venir au secours d'un ciel d'une noirceur infinie. Breathitt devait voir son diable arriver dans des conditions bien différentes. L'homme qui l'a invité n'était autre que mon père, Autopsy Bliss. Autopsy est un prénom des plus étranges pour un homme, mais sa mère était aussi une femme des plus étranges. Plus précisément, c'était une femme des plus étranges dans sa religiosité. Une femme qui utilisait la Bible comme un stéthoscope avec lequel elle écoutait battre le pouls du diable dans le monde qui l'entourait.
Oui, c'est ça. J'avais hésité entre deux extraits. Et l'autre extrait, c'était l'extrait où le petit garçon lui demandait une crème glacée dont vous parliez. Et c'est là donc qu'on entendait parler ce jeune garçon et non pas dans cet extrait-là qui n'était que de la narration. Confusion de la part de l'animatrice, ça arrive.
Et ce que je n'ai pas dit et que l'extrait l'a dit en partie, c'est que nous sommes dans ce que les Américains appellent « the Bible Belt », la ceinture de la Bible, ces États aux États-Unis qui sont habités par des gens dont la majorité appartiennent au mouvement qu'on appelle fondamentalisme chrétien.
Ouais.
Donc là, imaginez que Satan arrive dans ce décor, Satan ici, dont le diable, le petit garçon qui prétend être le diable, mais j'ajoute aussi que cette histoire, le jeune garçon qui devient comme le frère de ce petit garçon noir, Sal, eh ben, c'est Fielding. Mais Fielding a 13 ans, moment où les choses se passent, mais quand il nous raconte cette histoire, il en a 84.
Oh.
Donc, c'est le vieux, très vieux Fielding qui raconte cette histoire.
Oh.
Et pourquoi? Parce que cet été-là, bien sûr, il a comme perdu son innocence, il a comme découvert à quel point les gens pouvaient être violents. Alors, sa vie, il y a eu la vie avant le jeune garçon noir et la vie après. Mais c'est vraiment cet été-là qu'il a scindé sa vie en deux parties, si on veut. Mais encore une fois, c'est un vieillard qui raconte l'histoire, un vieillard qui n'est pas en très bonne santé, qui raconte l'histoire parce qu'évidemment, ça l'a marqué. Comme je vous dis, la fin est tragique, je ne vous la conterai pas, mais on sent qu'il va se passer quelque chose et on y va lentement, mais sûrement. Et malheureusement, ça va arriver. Mais voilà, le jeune garçon va comme payer pour à cause de ce malentendu, des superstitions, disons.
Oui, bien sûr.
Un milieu superstitieux, c'est pas normal que tout ça se passe comme ça, qu'il fasse aussi chaud. Alors, qu'est-ce que ce jeune garçon vient faire ici? Pourquoi il est arrivé comme ça? On pense que c'est un fugueur. La police fait des recherches. On ne trouve pas ses parents. Donc, d'où il vient, on ne le saura jamais.
Surtout avec ses yeux verts.
C'est ça. Un petit noir avec des yeux verts. Et en plus, il s'exprime parfois carrément comme un philosophe. Il a 13 ans, lui aussi. Alors, d'où ça vient, cette espèce de sagesse? Il va vers son destin comme, je ne sais pas, Jésus y allait vers le sien.
Oui, je comprends.
D'avance. C'est curieux, même si Jésus est omniprésent là-dedans, enfin, à cause de ce que j'ai dit, le fondamentalisme chrétien. Mais vraiment, ce petit garçon-là n'est pas bête du tout, mais on ne sait pas trop d'où il vient, pourquoi il est si maigre, qu'est-ce qu'il a vécu, on ne le saura pas. Mais malheureusement, il arrive dans un milieu blanc, superstitieux, et voilà. Nous avons beau être dans les années 80, il va se passer ce qui va se passer.
Je suis convaincu que le livre pourrait être réécrit en 2024 dans certaines régions et pas qu'aux États-Unis.
Il y a eu bien des événements tragiques depuis 1984. Malheureusement.
Exactement.
Donc, pour un premier roman, vraiment, c'est étonnant, étonnant qu'elle ait écrit avec une telle maturité. Alors, et je pense qu'elle devient vraiment un gros nom dans la littérature américaine. Même si elle a peu écrit jusqu'à présent, mais elle est très jeune encore.
Oui. Betty, je me souviens de ce livre et en même temps, je ne me souviens plus de ce qu'il racontait, de ce qu'il... est-ce que vous vous en souvenez?
J'ai essayé pendant la réécoute.
Attendez, on est en train de faire une recherche.
Mais je sais que j'avais beaucoup aimé ça. Encore là, nous avions une famille oui. famille, mais Betty, j'essaie de savoir pourquoi l'accent est mis sur Betty. Mais encore une fois, ce n'est pas de ma faute parce que je lis beaucoup, donc je finis par oublier, même si les grands livres que je lis, parfois je veux les réécouter. Mm-hmm. Mais j'avoue que je ne sais plus trop quelle est l'intrigue de Betty, mais j'avais beaucoup
aimé. Je vous comprends,
livre.
Non, et je m'excuse d'ailleurs de vous avoir posé cette question parce que c'était un petit peu un piège. Alors regardez, j'ai là ici, je viens de faire une recherche. Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père Cherokee.
Voilà.
Après des années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio, avec ses frères et sœurs, donc toujours dans ce même, dans la même province, hein, dans le même État.
Oui.
La petite fille grandit, bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture. Ça avait obtenu le prix du roman FNAC en 2020.
Oui.
Voilà. Betty.
Et le prix des libraires du Québec aussi, là.
Aussi, hein. Ah, ben,
donc,
écoutez, alors, merci.
Dans l'Ohio natal de Tiffany McDaniel, là.
Eh bien, merci de nous avoir rappelé que ce nom, que cette autrice américaine existe, Tiffany McDaniel, et qu'elle est fort intéressante pour ces deux livres au moins, et tous les autres à venir, Betty, et L'été où tout a fondu, que vous nous avez présenté aujourd'hui. Merci, Gérald.
Infernal.
Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Au plaisir, Clotilde.
Salut, Gérald. Deux nouveautés toutes fraîches, des nouvelles parutions en livre audio à vous proposer. La première, c'est Un animal sauvage de Joël Dicker. C'est lu par Laurent Natrella. On est en Suisse, on est à Genève en juillet 2022, alors qu'a lieu un braquage. Deux malfaiteurs sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie de Genève. Mais ce braquage est loin d'être un banal fait divers. Parce que 20 jours plus tôt, dans une banlieue très cossue, on va l'entendre dans l'extrait, sur les bords du lac Léman, Sophie Brown s'apprête à fêter ses 40 ans. Bon, la vie va bien, elle habite avec sa famille, la villa est magnifique, bordée d'une forêt, son monde est complètement idyllique, mais soudain, tout commence à s'effriter, à vaciller. Son mari est empêtré dans des petits arrangements pas très louables, son voisin, qui est pourtant un policier réputé irréprochable, est complètement fasciné par elle, jusqu'à l'obsession, il va même l'épier dans sa vie la plus intime. Et puis, il y a un jour, un mystérieux rôdeur qui lui offre, le jour de son anniversaire, un cadeau qui va la bouleverser. Ça va prendre de nombreux allers-retours dans le passé loin de Genève pour remonter à l'origine de cette intrigue diabolique. Mais bon, on connaît Joël Dicker, c'est toujours comme ça. Et personne ne va en sortir indemne. Pas même vous, le lecteur. On écoute un extrait de Un animal sauvage et la voix de Laurent Natrella.
Sophie, son café à la main, observait la lisière de la forêt qui marquait la fin de son jardin. C'était son rituel du matin. Elle embrassait du regard son petit royaume sans se douter qu'on l'épiait. À quelques kilomètres de là, au centre de Genève, une Peugeot grise aux plaques françaises roulait sur une avenue déserte. Dans le jour naissant, on ne distinguait pas son conducteur à travers le pare-brise. Le véhicule attira l'attention d'une patrouille de police. Des gyrophares bleus illuminèrent les façades des immeubles alentour. Les policiers procédèrent au contrôle de la Peugeot et de son conducteur. Tout était en ordre. L'un des policiers demanda au conducteur ce qu'il venait faire à Genève. « Une visite de famille », répondit-il. Les policiers, visiblement satisfaits, repartirent. Le conducteur se félicita de cette voiture d'occasion, achetée à très bon prix et surtout en toute légalité. C'était le meilleur moyen de passer inaperçu. Sophie, à la fenêtre, continuait d'observer son jardin. Parfois, elle surprenait un renard qui vagabondait sur la pelouse. Il lui était même arrivé de voir un chevreuil. Elle adorait cette maison, acquise avec son mari une année auparavant. Ils vivaient jusqu'alors dans un appartement au cœur de Genève, dans le quartier de Champel. L'idée d'une maison avec un jardin pour les enfants leur trottait dans la tête depuis un moment. La hausse des prix de l'immobilier les avait décidés à vendre leur appartement avec une belle plus-value et à se mettre à la recherche d'une maison. Lorsqu'ils avaient visité cette villa d'architecte située dans la commune huppée de Colonie, ils n'avaient pas hésité une seconde. Ils se réveilleraient tous les matins dans ce cadre enchanteur, tout en étant à 4 kilomètres du centre de Genève, où ils travaillaient tous les deux. Quelques arrêts de bus, 12 minutes de voiture, 15 minutes de vélo électrique pour les bobos. Il n'en fallait pas plus pour passer d'un univers à un autre. L'homme caché dans les taillis observait à présent Sophie à l'aide d'une petite paire de jumelles militaires. Il scrutait son corps élancé que dévoilait sa robe de chambre courte et s'arrêta sur le haut de sa cuisse où apparaissait le tatouage d'une panthère. Quelques dizaines de mètres derrière lui, son chien attendait patiemment attaché à un arbre. L'animal, couché sur un tapis de feuilles, semblait habitué à cette routine qui durait depuis maintenant plusieurs semaines. Son propriétaire venait ici tous les matins. À l'aube, il s'installait là et observait Sophie à travers les baies vitrées. Les Brown dormaient, les stores ouverts, et il voyait tout. Il la regardait se lever, descendre dans la cuisine, se faire un café et le boire à la fenêtre. Elle était tellement désirable. Il était obnubilé par elle, obsédé. Son café bu, Sophie monta à l'étage et rejoignit la chambre conjugale. Elle se déshabilla et se glissa nue dans le lit où son mari dormait encore. Depuis la forêt, l'homme la regardait avec envie. La réalité se rappela bientôt à lui. Il devait filer. Il devait être de retour chez lui avant que Karine et les enfants ne se réveillent. Il détacha son chien et repartit comme il était venu, en courant. Il prit le chemin forestier, retrouva la route principale et atteignit rapidement le village de Colonie. Il rejoignit un petit bloc de maisons mitoyennes. Un groupe d'habitations identiques, une résidence bon marché pour familles de la classe moyenne qui avait fait jaser dans cette commune chic habituée aux villas de luxe. En franchissant la porte de chez lui, il entendit sa femme l'appeler. « Greg, c'est toi ?» Il trouva Karine dans le salon en train de lire tout en buvant son thé. Les enfants dormaient encore. « Déjà debout, ma chérie ?» s'étonna-t-il, jouant faussement le détachement. « Je t'ai entendu te lever et je n'ai pas réussi à me rendormir. Oh, désolé, je ne voulais pas te réveiller. Je suis allé courir avec le chien. » Greg, qui n'avait que Sophie en tête, rejoignit sa femme sur le canapé et se colla contre elle. Mais Karine n'était visiblement pas d'humeur à ça. « Arrête, Greg, les enfants vont se réveiller. Pour une fois que je peux bouquiner tranquille. » Greg déconfit, monta à l'étage prendre sa douche dans la salle de bain attenante à leur chambre à coucher. Il resta un long moment sous le jet d'eau tiède. Ses escapades matinales pourraient lui coûter cher si on le découvrait. Il risquait son boulot. Karine le quitterait. Lui-même éprouvait de la honte à épier ainsi une femme chez elle. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher.
Si vous aimez Joël Dicker, vous allez vous régaler, c'est certain. Là, c'était lu, cet animal sauvage, du moins cet extrait, par Laurent Natrella ou Natreia. Maintenant, et pour finir cette émission, le requiem littéraire d'un talent sacrifié, celui de Sylvia Plath. La cloche de détresse, son ultime et seul roman d'ailleurs, est enfin en livre audio. Sylvia Plath était américaine, auteure américaine, autrice américaine, était d'abord et surtout connue pour sa poésie. Elle a publié cet unique roman sous un pseudonyme en 1963 et ça c'était un mois avant qu'elle se suicide. Alors il s'agit d'un roman à clé qui est inspiré de ses propres troubles bipolaires. Il a été réédité après sa mort sous sa véritable identité cette fois et sur papier. À l'époque, il avait provoqué une polémique et s'était attiré le procès même d'une femme qui s'était reconnue dans l'un des personnages du livre. Aujourd'hui, il est maintenant disponible en français depuis le 8 mars dernier, lu par Constance Dollé. Que raconte la cloche de détresse, un pan de la vie, sans nul doute, de Sylvia Plath, sous les traits d'Esther Greenwood, qui à 19 ans est à New York avec d'autres lauréates d'un concours de poésie organisé par un magazine de mode. Et elles passent, elles vont de réception en soirée, elles tuent le temps. Ce sont des journées qu'elles vivent dans l'ambiance d'une existence complètement agitée, puis surtout futile, hein, que vit à ce moment-là la narratrice. Et en même temps, elle se souvient de son enfance, elle a des relents de son adolescence en tant qu'étudiante américaine, elle se souvient des amours qu'elle a connus, et tout bascule lorsque cette Esther quitte New York. Tentative de suicide, traitement de choc, guérison, rechute, et pour finir, l'espoir. Esther, on l'a dit à la fois, patiente dans l'univers hospitalier et observatrice au regard aigu de ce monde qui a pour toile de fond l'Amérique des années 1950. Une lectrice de Babelio nous en fait un compte-rendu brillant. Elle écrit « Cette fille brillante qui rêve de devenir écrivain à une époque où écrire est encore un geste essentiellement masculin se voit sans cesse renvoyée à un avenir d'épouse et de mère ». Sylvia Plath dit « Ma mère me répétait sans cesse que personne ne voulait d'une licenciée en lettres tout court. Par contre, une licenciée en lettres connaissant la sténo, ça c'était autre chose. On se la disputerait. » Extrait de La cloche de détresse.
C'était un été étrange et étouffant. L'été où ils ont électrocuté les Rosenberg. Et je ne savais pas ce que j'étais venue fabriquer à New York. Je n'y connais rien aux exécutions. L'idée d'être électrocutée me rend malade. Et les journaux ne parlaient que de ça. À chaque coin de rue, à chaque bouche de métro sentant le rance et les cacahuètes, les gros titres me fixaient de leurs yeux exorbités. Cette affaire ne me concernait pas du tout, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cela ferait de se sentir brûler vif tout le long de ses nerfs. Je me disais que ça devait être la pire chose au monde. New York était déjà assez pourri comme ça. Dès 9h du matin, la fausse fraîcheur humide et campagnarde qui s'était infiltrée on ne sait comment pendant la nuit s'évaporait comme la fin d'un beau rêve. D'un gris de mirage au fond de leur canyon de granit, les rues brûlantes vacillaient dans le soleil. Les toits des voitures grésillaient et étincelaient. La poussière sèche et cendreuse volait dans mes yeux et m'emplissait la gorge. J'entendais parler des Rosenberg à la radio et au bureau encore et encore, au point de ne plus pouvoir me les sortir de la tête. C'était comme la première fois que j'ai vu un cadavre. Pendant des semaines, la tête du cadavre, ou plutôt ce qu'il en restait, surgissait derrière les œufs au bacon de mon petit déjeuner et derrière le visage de Buddy Willard, à qui je devais cette découverte. Très vite, j'ai eu la sensation de trimballer cette tête de cadavre partout avec moi, au bout d'une ficelle, comme une espèce de ballon noir, sans nez, puant le vinaigre. Je me rendais bien compte que cet été, quelque chose en moi ne tournait pas rond. Je ne faisais que penser aux Rosenberg et me répéter que j'avais été vraiment idiote d'acheter tous ces vêtements inconfortables et chers qui pendaient comme des poissons morts dans mon placard, que tous ces petits succès que j'avais joyeusement accumulés à l'université se réduisaient à néant devant les façades de verre et le marbre lisse de Madison Avenue. J'étais censée m'amuser comme jamais. J'étais censée être enviée par des milliers d'autres étudiantes comme moi à travers l'Amérique qui ne rêvaient que de se balader dans les mêmes chaussures en cuir verni que moi, pointure 39, que j'avais acheté chez Bloomingdale's à l'heure du déjeuner. Avec une ceinture en cuir noir verni et un sac en cuir noir verni assorti. Lorsque le magazine pour lequel on travaillait toutes les 12 a publié ma photo, vêtue d'un minuscule corsage en lamé imitation argent, planté sur un gros nuage dodu de tulle blanc, buvant des martinis dans un de ces endroits très chics comme le Waldorf Astoria en compagnie de jeunes gens anonymes à la mâchoire carrée typiquement américaine qui avait été loué ou prêté pour l'occasion, tout le monde a cru que j'étais prise dans un véritable tourbillon. « Regardez ce qui peut arriver dans notre pays », disaient les gens. « Une fille vit pendant 19 ans dans une ville perdue. Elle est tellement pauvre qu'elle n'a même pas de quoi se payer un magazine. Et puis elle reçoit une bourse pour aller à l'université. Elle gagne un prix par-ci, un prix par-là. Et la voilà aux commandes de New York, aussi à l'aise que dans sa propre voiture. » En réalité, je n'étais aux commandes de rien du tout. J'avais d'ailleurs du mal à me piloter moi-même. Je ne faisais que cahoter comme un trolleybus engourdi, de mon hôtel au bureau, du bureau à des soirées, puis des soirées à l'hôtel et de nouveau au bureau. Je suppose que j'aurais dû être emballée comme les autres filles. Mais je n'arrivais même pas à me faire réagir. Je me sentais très calme, très vide. Comme doit se sentir l'œil d'une tornade qui se déplace tristement au milieu du chaos généralisé.
Rappelons-nous que ce livre qui existe enfin en audio, « La cloche de détresse » de Sylvia Plath, a été publié sous un pseudonyme à l'époque en 1963, avant, un mois avant que son autrice se suicide. Tout d'un coup, je trouve que les mots prennent leur importance. Ben voilà ce qui met un terme à l'émission des livres plein les oreilles pour cette semaine. Je voudrais remercier Gérald Cousineau d'y avoir participé. Je remercie mon ami Mathieu Tessier qui, encore une fois, était en régie aujourd'hui pour m'accompagner. Puis vous remercier, vous, ainsi que tous les auditeurs de CKVL et cette radio qui relaie cette émission à chaque semaine. Merci beaucoup à vous. Merci à Canal M de bien vouloir la produire, cette émission-là, et de la diffuser sur le web, sur son site web. Canal M, c'est vraiment facile à trouver. Sinon, vous pouvez aussi nous écouter en podcast ou même sur YouTube. Il suffit de faire des livres plein les oreilles, réalisés, animés par Clotilde Seille. Salut !